En ce 14 juillet, nous accueillons l'abbé Philippe Beitia. Bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous allons parler d'un saint qui est fêté dans le calendrier propre du diocèse de Bayonne, à l'Escar et au Louron, le bienheureux Jean de Mayorga. Alors commençons tout de suite par dire qu'il y a un collège qui porte son nom à Saint-Jean-Pied-de-Port à Galassie.
Exactement, il y a un collège de bonne réputation d'ailleurs, qui porte le nom de Mayorga à Galassie, très sûrement parce que... Jean de Mayorga est né à Saint-Jean-Pied-de-Port.
En 1533.
On donne 1533, mais...
Autour de 1533.
C'est plutôt 1531.
Jean de Mayorga est célébré comme bienheureux, mais il n'est pas tout seul, il est avec des compagnons. Pourquoi, pourquoi il a été béatifié ?
On le célèbre à Bayonne le 14 juillet, alors qu'ils sont morts, le 15 juillet 1570. Dans le nouveau calendrier, parce que voilà, le 15 juillet, on célèbre Saint Bonaventure, donc il fallait garder les deux. Hein. Il fait partie d'une équipe d'ouvriers apostoliques, dont le responsable est notre jésuite, Ignacio de Azevedo. Donc ils sont 40 à faire partie de cette équipe apostolique, et donc à avoir été béatifiés. Et donc, bien entendu, puisqu'il fait partie du diocèse de Bayonne, c'est sa figure qui ressort davantage.
C'est les martyrs du Brésil, on les appelle comme ça ?
Ce sont les martyrs du Brésil. Bon, la figure de Jean de Mayorga est intéressante. Bon, il naît à Saint-Jean-de-Pied-de-Port, puis il va faire ses études en Aragon. Alors, c'est un peintre, un artiste peintre. Et on dit que, eh bien, il avait... Beaucoup de pinceaux, on a gardé des peintures de Jean de Mayorga et que, bon, il a eu un certain succès. Que c'est dans ce succès-là qu'il a entendu l'appel de Dieu. Donc il est entré dans la communauté nouvelle de l'époque, qui était la compagnie de Jésus.
Les Jésuites.
Les Jésuites. Il voulait y entrer comme frère coadjuteur, c'est-à-dire comme jésuite non prêtre. Donc, à un moment donné, on a eu besoin d'un groupe pour évangéliser le Brésil. Donc, on s'est adressé à la compagnie de Jésus. Il a été choisi. Donc, il est quand même relativement jeune hein, à ce moment-là.
Rappelons un peu le contexte. C'est le tout début. Enfin, ça a bien déjà commencé, mais c'est la découverte des Amériques. Et donc, il faut envoyer les Espagnols, en tout cas, et les Portugais, en voie du monde là-bas pour exploiter les richesses et pour évangéliser.
Alors, comme vous savez, à l'époque, il n'y a pas d'ONU pour régler les problèmes internationaux. Donc, c'est le pape qui règle les problèmes internationaux. Et entre autres questions, dans un premier temps, c'est qui va évangéliser l'Amérique latine ? Et comment ? Donc le pape Alexandre VI Borgia va faire la scission d'Amérique latine entre les Portugais et les Espagnols. Et donc le Brésil, ce qui est aujourd'hui le Brésil, va échoir aux Portugais et le reste, c'est-à-dire bonne partie de l'Amérique latine, hein, bon, quand vous êtes au Brésil, vous pouvez faire, moi j'y étais une fois, plusieurs heures de bus pour aller d'un point à un autre. Et le reste, donc, aux Espagnols, ce qui explique qu'aujourd'hui, ben voilà, le Brésil soit de langue portugaise et le reste de langue espagnole. Donc, d'abord, on a l'idée d'évangéliser. Et donc, il y a l'encomienda, c'est-à-dire qu'on confie ces populations à des Espagnols ou des Portugais, donc, pour qu'ils les évangélisent et qu'ils en prennent soin. Mais bien sûr, on le voit aussi dans la vie de Saint François Xavier, il va y avoir quand même pas mal d'abus.
Donc il fait ses études à Saragosse ?
Il fait ses études à Saragosse, il va prononcer ses premiers vœux aussi en Aragon, Valdirossa, je crois. On cherche des ouvriers apostoliques. Par ailleurs, on est intéressé par le fait qu'il soit peintre. Parce qu'il pourra représenter, bon, non seulement faire des retables, mais aussi représenter les saints, les scènes bibliques, pour la catéchèse. Hein, la catéchèse est très souvent à partir d'images, de vitraux, de statues, et ce genre de choses. Voilà, François Borgia, le le supérieur général des jésuites pense que ça, c'est bon qu'il y aille, et Ignace de Loyola aussi. Hein, voilà.
Et donc on l'envoie au Portugal pour se préparer à cette mission.
C'est un groupe de 40 qui part au Portugal, dont il fait partie.
Et c'est là qu'on trouve le père de Azevedo, que vous avez évoqué tout à l'heure. C'est lui qui les forme spirituellement, qui les accompagne.
Oui,
pendant...
c'est lui qui est leur supérieur. C'est lui qui est leur supérieur. C'est à lui qu'on a confié un peu toute cette affaire. Donc il part avec des ouvriers apostoliques pour cette évangélisation du Brésil.
Signalons juste pour l'anecdote que parmi les 70 membres, il y a aussi le neveu de Sainte-Thérèse d'Avila.
Voilà, il y a aussi le neveu Sainte-Thérèse.
Et le 5 juin 1570, c'est le grand départ donc pour ce nouveau monde.
Donc ils partent pour ce nouveau monde. Et alors c'est une aventure avec un peu heurtée. Parce qu'il y a deux bateaux, puis ensuite il n'y a plus qu'un, puis il y a des débats sur le trajet à faire. Donc ils vont passer par les Canaries, mais bien sûr, il y a là des calvinistes, des pirates calvinistes, qui ne veulent absolument pas, qui savent qu'il va y avoir cette mission au Brésil, qui n'en veulent absolument pas, et qui guettent ce groupe.
Il intercepte donc les 70, ces fameux missionnaires.
Ils interceptent le bateau. Ils vont se défendre. Ils vont se défendre contre les pirates. Voilà, légitime défense quand même. Mais bon, les pirates vont avoir le dessus. Et les pirates calvinistes, avec Jacques de Soria ou de Souris ou de Sordis, enfin bon, donc vont exiger qu'ils renoncent à la foi catholique.
Et donc là.
Et donc, bien sûr, qu'il ne peut en être question. Alors, vous avez le cri de Jean de Mayorga, hein, Vivat Dominus Noster Jesus Christus, Vivat Fides Catholica, vive notre Seigneur Jésus-Christ, vive la foi catholique. Ils vont être transpercés à coups de lance, jetés par-dessus le pont. Voilà. Si ce n'est que les calvinistes vont garder quand même le cuisinier. Parce que, très sûrement, ils en ont besoin. Heureusement, d'ailleurs, parce que...
C'est lui qui va raconter
voilà, ce qui s'est passé.
Et donc, on a le récit donc, du martyr de Jean de Mayorga et de ses 40 compagnons.
Voilà.
Et ensuite, il va falloir un certain temps quand même pour que l'Église reconnaisse, béatifie donc, Jean de Mayorga et ses compagnons. Pourquoi ?
C'est assez classique. Il n'y a que ces derniers temps où on béatifie, où on canonise... rapidement. Je crois que avant le concile, il fallait 50 ans, si mes souvenirs sont bons, avant qu'on lance le procès de canonisation. Il fallait s'assurer qu'il n'y avait pas de culte, pour ainsi dire, sauvage d'un martyr. Donc l'Église, bon, d'une part, il a fallu qu'on présente ça à l'Église, au Saint-Siège. Donc ça, c'est sûrement la compagnie de Jésus. Qu'il a fait. Il a fallu aussi également qu'on étudie s'ils avaient écrit leur écrit, qu'on voit leur vertu héroïque et aussi qu'on discute du martyr. Parce que pour qu'il y ait martyr, il faut que ça soit en haine de la foi. Inodium fidei. Et également l'opportunité. Opportunité pour faire la colonisation qui n'apparaît, je crois, que dans les années 1864, enfin du temps du pape Pie IX. Mais il y a aussi du temps de Pie IX à béatifier et canoniser des martyrs de ce type, parce que, bon, voilà, ce sont des martyrs de la foi catholique. À une époque, au XIXe siècle, où l'Église, quand même, connaît quelques difficultés entre le libéralisme, le voltairianisme, enfin, un tas de courants idéologiques qui s'opposent à elle. Alors le fait de les mettre en lumière marque aussi la résistance et ce qu'il faut faire.
Un grand merci à vous, Abbé Philippe Beitia, de nous avoir présenté ce saint de chez nous, le bienheureux Jean de Mayorga, donc né à Saint-Jean-Pied-de-Port, et qui a fait partie donc de la Compagnie de Jésus, les Jésuites. Merci à vous.